Tunisie, pas de président sa vie. Liberté en Tunisie, pas de président sa vie. Liberté en Tunisie, pas de président sa vie.
Hey, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit, en compagnie de Nicolas.
Jeannie.
Et Farouko qui n'avait pas de micro encore.
Farouko et son histoire d'amour avec les micros. Ah. Donc, cette semaine, de quoi on va parler? Évidemment, comme l'indiquait notre thème, on va parler de Tunisie. Parce que ben il se passe des choses là-bas assez importantes et on a ramené une entrevue avec un opposant au régime qui nous parle de justement ce qui se passe en Tunisie actuellement. Et sinon ben on va revenir on s'était quitté sur la crise à Sequoia avant les fêtes et on y revient aujourd'hui avec un reportage.
J'ose parler du Canada qui est classé au dernier rang par rapport au droit à l'accès à l'information. Du mariage gay, il y a un projet de loi qui a été jugé inconstitutionnel en Saskatchewan. Il y a le Parlement de l'Illinois qui a voté l'abolition de la peine de mort, puis aussi un flic infiltré chez les écolos anglais qui est devenu écolo lui aussi.
Ouh! Mais avant ça, on a quand même des chroniques habituelles, et à oui, savoir les blagues.
On balance les blagues en partant. Quinte-toi!
La blague anarchiste. Qu'est-ce qui est pire qu'un avion de patron qui s'écrase? Un avion de patron qui s'écrase avec 3 places de vide. C'est quoi la différence entre un chien enragé et un patron? Il n'existe pas de sérum contre le patron. C'est quoi la différence entre un patron et un chien? Le chien, lui, n'a pas de secrétaire. C'est quoi la seule supériorité du patron sur un pot de chambre? C'est que le patron, lui, est capable de se vider tout seul. Comment on appelle ça un patron qui rentre dans un égout? Un retour aux sources. C'est quoi la différence entre un cochon et un patron? Dans le cochon, tout est bon.
Je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non, monsieur le juge, non, je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non, monsieur le juge, hey, non, je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non, monsieur le juge, non, non, je n'ai pas d'excuses, je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Le système abuse et c'est inacceptable. Il refuse à certains ce qui est même l'indispensable. Quand y a tout qui augmente et que les prix grimpent en flèche, ils t'ont mis en attente et toi t'es toujours dans la dèche. Pendant ce temps-là, on s'ennuie pas chez les chefs de l'État. Déroule tapis rouge pour le premier ministre chinois. Président est accueillant, mais est-ce qu'au dépend de ses francs? Il dépense en compter, mais il sait compter pour les Français. Alors, non, monsieur le juge, hey, non, je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non, monsieur le juge, non, non, je n'ai pas d'excuses, je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Mais tu n'as pas le choix. Et une bouffée de ton air, non ça tu n'y as pas droit. T'as mis un serial proverbe, man, si tu ne sais pas quoi faire. Y'a bien le temps pour la guerre, quand les troquets sont ouverts. Toutes questions à couvert, les pions veulent y voir plus clair. Puis on les laisse faire, et là c'est le retour en arrière. Moi je fais le tour par derrière, s'il y a quelqu'un tu cries à terre. Tiens des gains, tu reviens, on ne va pas foutre en l'air. L'opération est claire, opération coup de tonnerre. Une éradication à la façon militaire. Il me faut un portable, un cum redoutable. Un pro, un expert qui s'y connaît en la matière. Il est chaud comme une braise, le sang froid comme une cèze. A changer au rapport pour une mission corps à corps. Alors, non, monsieur le juge, hey, non, je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non, monsieur le juge, bon, non, je n'ai pas d'excuses, je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse.
Hey,
Oui, on vient d'entendre l'excellente pièce du 8-6 Crew, un album tout chaud encore qui s'appelle Old Reggae Friends avec le juge.
Ça, c'est le genre d'affaire qu'on peut trouver n'importe où?
Non.
Ben, tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut le trouver?
Ben, moi, c'est un de mes amis qui me l'a commandé. Ah, merde. Tu te commandes, hein?
C'est français.
C'est français et comme tu peux voir sur la pochette de CD, tu sais, y a pas de major. Fait que c'est pas distribué ici.
Même pas dans les petits disquaires.
Ça m'étonnerait pas mal. C'est vraiment un groupe obscur. Un peu comme Yabasta à l'époque, qui étaient eux, qui étaient un petit peu plus distribués parce qu'il y avait 3-4 petits labels indépendants, mais 8-6 Crew, c'est complètement indépendant. Rien à faire. Faut commander. Ben, il est disponible sur plusieurs sites punk rock français. Ben, il faut commander.
Bon.
Et voilà. Sauf en fin de semaine, si vous venez samedi, il y a un show. Ben, vendredi, il y a la soirée reggae pour CKIA. Mm-hmm. Et samedi, il y a un show suivi d'une soirée DJ avec DJ Chéri Bibi à partir de 23h. Et Chéri Bibi étant le français qui fait le magazine culturel populaire Chéri Bibi. Et il aura décédé du 8-6 Crew.
C'est quand ça?
Samedi à partir de 23h à la JT.
Calice,
et si vous arrivez avant minuit, c'est gratis. Vous arrivez après minuit, ça coûte 5$.
Pour vrai?
Oui, il me semble.
Faut pas. En tout cas, c'est parce qu'il y a un show avant.
Ah,
puis le show, c'est comme du punk un peu plate, mais bon.
Si tu donnes envie d'y aller.
Ah, c'est malade. On va commencer ça.
Appel aux progressistes. Il faut sauver Sequoia.
Sequoia est né il y a 25 ans dans les luttes.
À l'origine, les groupes communautaires, féministes et écologistes arrachent le droit d'émettre sur la bande FM.
Depuis, Sequoia est acteur et témoin de tous les combats.
Sauver Sequoia, c'est soutenir la gauche, la démocratie et la diversité d'opinion. Sequoia est né dans les luttes et si elle doit s'éteindre, ça ne sera pas sans combat.
Sauver Sequoia! Sauver Sequoia FM!
Achetez une carte de membre sur ckiafm.org, passez-nous voir sur les heures de bureau au 600 Côte d'Abraham ou appelez-nous au 529-9026.
Normalement, ces dernières semaines, vous avez dû entendre ça sur les ondes à quelques reprises. C'est une des... Mon Dieu, peux-tu parler de publicité?
Des promos?
Oui, une des autopromos qui a été produite par le comité de survie de Sequoia. Donc, on vous en avait parlé avant de partir en vacances. Sequoia est en crise depuis le début décembre. Et puis, c'est ça. Comme ça ne tentait pas d'en parler pendant 15 minutes, même si des militants du collectif anarchiste La Nuit, dont moi, dont François, qu'on a entendu à l'instant dans l'autopromo, c'est d'ailleurs lui qui l'a monté, sont impliqués beaucoup là-dedans, on a décidé de faire un petit reportage. Et on va entendre notamment certaines des personnes qui participaient à cette autopromo-là. Mais avant, on va aller tout de suite avec une courte entrevue avec Brian Saint-Louis, qui est le nouveau président du conseil d'administration de la station. Toi, c'est Brian. T'as été longtemps ici, hein?
Ben oui, j'ai été très longtemps ici. Les gens me connaissent parce que je suis animateur de différents projets depuis 2001. Mais j'ai été aussi directeur de la programmation à CKIA pendant 3 ans à peu près, jusqu'à cette année, en 2010. Et maintenant, je suis de retour sous la forme de président de CA.
Donc, toi, en sortant de l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu, en allant à l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu en décembre, est-ce que tu pensais te retrouver président d'un conseil d'administration?
Je pensais me retrouver sur le conseil d'administration parce que je me l'étais fait subtilement proposer dans les derniers jours. Je pouvais pas faire partie du conseil d'administration parce que j'étais encore employé de la station, mais là, avec les mises à pied qu'il y avait eu, j'étais tout soudainement libéré de toute obligation légale. Donc on m'avait dit « On va voter pour toi au conseil d'administration ». Et puis, élire des gens dans un CA pour un organisme communautaire, c'est toujours compliqué parce qu'on cherche des personnes qui sont intéressées, qui ont quand même du temps à donner, qui connaissent assez l'organisme. C'est jamais facile. Donc, je me disais, bon, à quelque part, étant donné que je suis un ancien employé, je suis encore très près de la station, j'ai pas eu le choix. Je me sentais obligé. J'avais des obligations morales. Puis, je me suis dit, OK, je vais donner mon nom. D'être président du conseil, ça, par exemple, c'était un petit peu une surprise. Je pensais pas que ça allait terminer comme ça. Et pourtant.
Et non seulement tu te retrouvais président du conseil, mais pris avec une situation pas nécessairement super évidente.
Oui, en ce moment, la station, il n'y a pas beaucoup de ressources d'employés. La situation, comme on vous le répète, vraiment dans une situation assez critique. Là, on en rit un peu en ce moment parce qu'on essaie de prendre ça quand même avec un bon vent d'optimisme. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a assez sérieux. Si on n'a pas d'employés, c'est parce que justement, il n'y a plus les ressources financières en ce moment pour les payer. Or, les émissions continuent. On est toujours là sur les ondes. Il y a toujours des émissions, des producteurs, des gens dont il faut s'occuper. Donc, oui, il y a du travail à faire. Et puis, c'est un peu avec toute cette charge de travail-là avec laquelle je me retrouve en ce moment. Là.
En décembre, la mi-décembre, le conseil d'administration, les bénévoles ont lancé un appel à l'aide, une vaste campagne de mobilisation. Dis-moi, est-ce que ça a donné des résultats? En tout cas, ça fait sourire. Je sais pas.
Jusqu'à présent, on est à moitié satisfait parce qu'on a atteint la moitié de notre objectif. Pourquoi avoir lancé cette campagne-là? C'est parce que c'est qu'il y a besoin d'argent. On est dans cette logique-là en ce moment. Et oui, une manière pour les gens qui aiment la station de l'aider, c'est d'appuyer financièrement et de devenir membre. Donc, c'était l'action immédiate la plus concrète qu'on pouvait poser. Donc, c'est la raison pour laquelle on a lancé cette campagne-là. Ça a bien été la réponse jusqu'à présent. Je veux dire, on a atteint la moitié de notre objectif quelques semaines plus tard. C'est très bien. C'était le temps des fêtes. C'est sûr que c'était pas nécessairement le meilleur timing. Là, au retour, on veut que ça continue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toi aussi, tu nous fais un beau petit reportage pour que relancer un peu cette action-là. Il va y avoir des shows bénéfices qu'on veut organiser. On veut aller dans les rues. On veut se faire voir. On veut qu'il y ait des activités. On veut que les gens continuent d'entendre parler de CKIA. On veut l'atteindre, ce 1000 membres-là. Qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire, ça va être un appui financier pour la station, mais ça va être en même temps un message que les gens qui nous écoutent vont envoyer à nos partenaires financiers, à ceux qui peuvent avoir des projets avec nous, qu'ils sont là, que CKIA existe pour quelque chose. Ça va rassurer un peu tout le monde sur le rôle de la station. À partir de là, ça va être plus facile pour nous de travailler pour relancer CKIA.
Puis, du côté des militants, des bénévoles autour de la station, la réponse jusqu'à maintenant, il y a quand même des gens qui se sont regroupés. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, il y a beaucoup d'énergie qui a été déployée jusqu'à présent. C'est très bien. C'est sûr qu'on a besoin de bras, justement. Comme toujours, je pense qu'il y a une tradition un peu de mobilisation de ses membres. C'est un organisme où les membres sont actifs parce qu'ils viennent. Ils viennent à la station. Il y a beaucoup de nos membres, c'est des producteurs, mais il y a aussi les autres membres qui nous écoutent. Donc, il y a une belle réponse dans ce sens-là. Des gens qui sont vraiment relevé les manches et qui ont dit... on va aider à sauver cette station-là parce que ça nous tient vraiment à cœur. Ça nous rassure pour notre rôle.
Puis sinon, pour la suite des choses, qu'on peut s'attendre?
On peut s'attendre à une résurrection de CKIA, bien sûr. On va continuer de rouler nos manches. On va continuer de travailler très fort. Puis c'est sûr qu'il y a encore plein d'actions à mettre en branle au cours des prochaines semaines. Il y a encore de l'argent à aller chercher. On a des casse-têtes incroyables. Donc, ne vous en faites pas. Nous autres, on ne chômera pas au cours des prochaines semaines. Ce qu'on peut dire aux gens, c'est de continuer de nous appuyer, continuer de parler de nous, autour de vous, vos connaissances, vos amis. Connaissez-vous CKIA? En êtes-vous membre? C'est la question posée ces temps-ci pour que les gens nous appuient.
Merci.
De rien.
Ah oui, donc c'était Brian Saint-Louis sur un fond musical de Bratch, sans domicile fixe, à CKIA justement. Ben, écoutez, on en parlait, il y a une mobilisation des bénévoles, des militants, des militantes de la station, autour de la station. Puis, ben, il y a un comité de survie qui a été mis sur pied auquel il y a beaucoup de producteurs puis beaucoup d'amis qui participent. Puis, ben, dimanche dernier, c'était la réunion hebdomadaire de ce comité-là. Alors, je me suis permis d'aller faire des entrevues avec des camarades de Cultivons notre hip-hop de Giramundo et d'Ainsi Squat-t-elle. Donc, vous êtes tous bénévoles au comité de survie. Que vous êtes
Marie.
Marie-Ève.
Et Simon-Olivier.
vous avez été là pendant le temps des fêtes. Ben, en gros, comment ça s'est passé, le comité de survie, jusqu'à maintenant?
Ben, en fait, c'est ça, le comité de survie, c'est venu suite à l'AG annuel de CKIA, puis on s'est dit qu'il fallait assurer les permanences, vu qu'il y avait un seul employé. Donc, il fallait qu'il y ait des gens qui soient là pour répondre aux appels, pour ouvrir la porte, pour prendre les gens, les inscriptions des gens qui veulent être membres. Donc, c'est pas mal ça, puis ça, moi, je trouve ça a super bien fonctionné. Un beau groupe bien organique avec des tâches distribuées, tout ça, puis un calendrier.
Ça s'est fait vraiment vite aussi, là, vu qu'en sortant de l'AG, on s'est retrouvés sur le pas de la porte, puis là, on a pris les listes de courriels, puis le groupe s'est monté là.
Alors, progressivement, justement, on contacte les gens par email, on les contacte par téléphone pour les solliciter à nouveau, pour qu'ils deviennent membres à nouveau.
La réponse, en général, elle est bonne. On en a rendu où, là, présentement?
On est rendu à la moitié de l'objectif, 500 membres sur 1000. Il faudrait se rendre à 1000.
Et la réponse de l'ensemble est vraiment très bonne, en fait, parce que les gens, ils nous demandent juste, au fait, c'est qu'il y a, comment je peux m'inscrire et tout. Donc, nous, idéalement, on se promène avec les cartes de membres vierges dans nos poches.
Oui, c'est à dégainer.
On se promène dans la rue, on fait juste...
Les gens, ils ont pas nécessairement signé une carte de membre avec les bénévoles. Là. Ils peuvent aussi venir à la station, aller sur Internet. Ça marche bien, Internet?
Ouais, ça marche très bien.
Ça marche bien. Bah, avec tous les courriels qui ont été lancés sur les réseaux de tout le monde, tous les producteurs, puis tous les gens qui se sont impliqués là-dedans, il y a eu quand même pas mal de réponses. Là. Surtout juste avant les fêtes, là. En fait, tout de suite après l'Assemblée, quand on s'est mobilisé, là, il y a eu beaucoup de réponses. Là, il y en a un petit peu moins, donc c'est pour ça qu'on va amorcer une deuxième phase de une relance, en fait, pour que ça continue.
Juste pour revenir, là, c'est quand même impressionnant. La permanence à la station, là, ça fait combien de temps qu'il y a les bénévoles?
Ben, ça a duré trois semaines, en fait. La semaine d'avant les fêtes, la semaine entre le Noël et le jour de l'an, puis la dernière. Avec une permanence, en fait, ça s'était réparti en deux blocs, un chiffre le matin, un chiffre l'après-midi.
Oui, parce qu'en fait, il y avait le technicien qui était là, Denis Roberge. Donc lui, il a eu quelques jours de vacances quand même, mais il ne pouvait pas être seul parce que vu qu'il s'occupe déjà de la technique, ça prenait quelqu'un pour répondre au téléphone, pour justement remplir les cartes de membres et tout ça. Tous les jours, il y a quelqu'un qui est venu l'accompagner, pouvoir s'occuper de ça, répondre au téléphone, puis ouvrir le courrier, des tâches ben basiques en fait.
Et juste pour la petite anecdote, il y a quand même des membres qui ont été très surpris parce que moi je me rappelle un mardi, une amie qui s'était enregistrée sur PayPal donc à 4h l'après-midi, puis moi j'arrive à 6h à la JT avec sa carte de membre. Donc là, j'étais là, ben là, ça se peut pas, ça n'a jamais été aussi rapide que ça. Donc je pense qu'il y a eu une grosse activité.
On a même, à un moment donné, on avait des enveloppes avec nous parce que, pourvu qu'on économise aussi sur les timbres, on se promenait avec les enveloppes quand c'est dans notre quartier. Là. Puis à un moment donné, avec Marie, justement, on passait près d'une adresse. Puis que, comme c'était une adresse où on ne pouvait pas laisser la lettre dans la boîte aux lettres, puisqu'il fallait rentrer dans l'entrée de l'immeuble. Fait qu'on a sonné. Là, la personne est descendue, puis on a dit « Allô, c'est KIA, une radio près de chez vous !» Il était tellement content. Et que ça, ça a été les petits bouts de le fun.
Donc, et là, normalement, il y a quelqu'un qui rentre cette semaine pour s'occuper d'une permanence salariée. Ça va être quoi les prochaines tâches du comité de survie?
Ça va être encore une fois solliciter les membres, les anciens membres qui étaient membres. Il faut dire que la radio a 25 ans, donc il y a des membres qui sont là depuis 1900, très loin. Et on peut tous les solliciter, ces gens-là.
Je crois.
Oui, exactement. Non, pas encore. Alors, on va tous les solliciter, puis c'est intéressant parce que l'ensemble des producteurs se rallient puis fait toujours la promotion durant leurs émissions là, pour solliciter les nouveaux membres.
Pas les pestacles aussi?
Oui, des pestacles qui vont venir aussi de... Des soirées bénéfices qui devraient venir durant le mois de janvier, justement le 15 janvier, 14 janvier à la JT, il va justement y avoir un show bénéfice organisé par Kiko qui lui fait l'émission Dread Al Control. Ça devrait être une soirée très intéressante avec reggae et
Donc il va falloir surveiller ça pour avoir les autres dates qui manqueront pas de se rajouter. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas pu?
Longue vie à ces cahiers.
Ouais. Suivons la lutte.
Donc, pour finir sur ce sujet, ben, en fait, on finira pas sur ce sujet, on risque de vous en reparler, parce que ben, c'est très important ce qui se passe, hein, quand même, mine de rien, là. la station, on y tient, puis ben il y a des choses intéressantes qui se sont faites. Donc le spectacle dont il était question, le premier d'une série de spectacles, c'est Reggae Celebration 2011. Donc c'est un événement bénéfice pour Sequoia qui va avoir lieu ce vendredi le 14 janvier à 21h au bar coopératif L'Agité. Donc pour ceux et celles qui ne le sauraient pas encore, ça c'est situé au 251 rue Dorchester, au coin de Prince-Édouard. Puis là, il y a pas mal de monde qui vont participer. Prodigious Galsen de Montréal, Diana, Peach, Guy Memo, Daddy Roshi, Papaté, Neto Youth.
Popati.
Popati.
C'est les deux Jamaïcains de service.
Et sur l'animation, il va y avoir Pyraman Thierry puis Real Fire Sound.
Yeah.
Qui est, en fait, Real Fire Sound, si j'ai bien compris, c'est la gang qui font Dread All Control.
Ouais, Kiko, il fait Dread All Control.
Donc, c'est ça, il va y avoir des cartes de membres à vendre sur place. L'entrée est 5$. D'habitude, ce genre de show-là, c'est gratuit, mais cette fois-ci, les fonds vont aller à Sequoia. Bon, on fait une bonne partie, j'imagine. Si vous vous êtes pas disponible pour aller là, il va y avoir d'autres shows. Puis si vous n'êtes pas encore membre de la station, bande de coquins, vous pouvez le devenir, entre autres par Internet. Il faut juste avoir une carte de crédit, même pas besoin de compte PayPal. Vous allez au www.sequoiafm.org. Puis là, ben là, là, vous pouvez faire barre oblique membre ou ben non, cliquer sur devenir membre. Et puis c'est tout expliqué comment faire avec PayPal. Sinon, vous pouvez passer sur les heures de bureau au 600 Côte d'Abraham.
Attends, tu viens juste de dire pas besoin de compte PayPal. Puis là, tu me dis.
C'est PayPal qui le gère, mais t'as pas besoin d'un compte pour pouvoir payer. T'as juste besoin d'une carte de crédit. La part des gens, ils voient le logo PayPal. Faut j'ai pas de compte PayPal, je peux pas. Mais c'est
au
pas
fond,
vrai.
C'est comme tu balances ton cash à PayPal qui le redonne à
c'est ça. Qui le redonne à Sequoia en se prenant
3-4 pièces.
Cote au passage. Bon, je sais pas combien, je sais pas si important que ça, mais quand même. Sinon, vous pouvez venir. Pour 600 Côte d'Abraham, 6 heures de bureau. Vous pouvez aussi le faire par téléphone. C'est le 529-9026. Encore là, par téléphone, ça prend une carte de crédit. Donc, c'était ça pour Sequoia. Nous, on va reparler très certainement parce qu'on y tient, Sequoia. Mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a aussi des amis qui lancent des albums.
Ouais.
Ouais. Alors, des amis de Voix de Fait, de l'AGT, de Sequoia, de les Magali Brats.
Du monde bien, Smat.
Youhou!
Calling the ghosts of party. Learn from five and people of going noise.
Hey, c'était The Magody Rats sur les ondes de Sequoia FM 88.3 à Québec. Donc, si je me trompe pas, Farouko, c'est Danse Macabre, c'est ça le nom de l'album?
Tu l'as dans les mains, là. J'ai lu dans les mains et c'est Danse Macabre.
Danse Macabre. Et contrairement à 8-6 Crew, ça, vous pouvez le trouver à Québec. C'est un band de Québec. Mais vous pouvez pas le trouver n'importe où à Québec. Il faut aller soit à l'Exo, soit à CD Mélomanes. Et si on se fait à mon expérience récente à CD Mélomanes, il faut le demander. Mais c'est vraiment pas cher, ça vaut la peine. C'est un band à surveiller, à mon humble avis. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Et Jenny a des nouvelles.
Ouais, 4 nouvelles. On va commencer par le Canada qui a été classé au dernier rang au sujet de l'accès à l'information. C'est une étude britannique comparant l'accès à l'information dans 5 démocraties parlementaires qui a passé le Canada au dernier rang. C'est l'Université britannique qui a réalisé cette étude, sont penchés sur les lois touchant l'information en Australie, Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Grande-Bretagne, au Canada. Bon, on reconnaît dans le fond que c'est 5...
c'est le Commonwealth.
C'est ça. Puis, selon eux, le Canada, parmi ces 5 pays-là, c'est celui qui fait preuve de la moins grande ouverture. Les auteurs jugent que les lois canadiennes sont inefficaces et archaïques, puis c'est la Nouvelle-Zélande qui arrive au premier rang. Puis, ce qui dit que, par rapport, il y avait une étude aussi, ces conclusions publiées dans les pages Government Information Quarterly font écho à une étude similaire pour les réseaux Canada en 2008. Cette étude avançait que le pays faisait pied de figure par rapport aux autres pays en ce qui traite la liberté d'information. Il y en a d'autres qui disent, les personnes qui sont citées dans l'article disent que les lois canadiennes sont vieilles puis que le système canadien est en déclin. Pis ça constitue aussi un revirement par rapport à la situation qui prévalait il y a une dizaine d'années alors que le Canada était vu comme un chef de file en matière de liberté d'information. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec le régime des conservateurs? Je pense que oui.
Oui.
Pas mal.
Ça concorde, c'est d'attendre, en tout cas.
Ça fit. Les astres sont alignés.
C'est un concours de circonstances, camarade. Un concours de circonstances. C'est un complot sioniste international.
Et voilà.
Bon. Une bonne nouvelle cette fois-ci, c'est les commissaires de mariage de la Saskatchewan qui ne peuvent invoquer des motifs religieux pour refuser d'unir deux des congés de même sexe, selon la décision du bureau de tribunal de la province. C'est la cour d'appel de la Saskatchewan qui était appelée à se prononcer sur la validité d'un projet de loi provincial qui aurait autorisé les commissaires de mariage à invoquer leur religion pour refuser de marier des conjoints de même sexe. Ce projet de loi-là, ça avait été rédigé à la suite de conflits survenus en 2005 lorsque le commissaire Orvin Nichols de Confession Baptiste avait refusé de célébrer un tel mariage. Dans le jugement rendu lundi, les juges affirment que la loi CLC avait été adoptée, ça aurait violé la Constitution canadienne. Puis le gouvernement a décidé de ces provinces a décidé de ne pas porter la cause en appel. Puis les partisans du projet de loi plaidaient qu'on n'empêchait pas les groupes de même sexe de trouver un autre commissaire pour les unir officiellement. Mais une avocate des commissions des droits de la personne en Saskatchewan, Janice Gill, avait affirmé que même si le projet de loi n'empêchait pas les conjoints de même sexe de se marier, il créait un obstacle injuste entre eux. Donc,
là, si je me trompe pas, là, on parle pas de prêtre. Là, on parle, quand on dit commissaire, on parle de fonctionnaire de la province. Ouais, ben là.
Lui, il faut qu'il écrase.
Non, la loi, c'est la loi.
Sinon, t'es dehors. Tu veux pas faire ta job.
Si t'es pas content, tu trouves un autre job. Bon. Une autre bonne nouvelle, ça arrive pas souvent à voix de fait. C'est le Parlement linois qui a décidé de voter l'abolition de la peine de mort. Dans le fond, linois, c'est le fief de Barack Obama. C'est la Chambre, le Sénat de cet État-là qui ont décidé de.
C'est Chicago, hein, c'est ça?
Ouais.
Hein?
Chicago, Illinois.
C'est ça. Puis ils ont décidé de voter l'abolition de la peine de mort dans le fief dans le comté de Barack Obama, laissant au nouveau gouverneur démocrate de cet État, Pat Quinn, le choix d'être transformé se vote en loi. C'est le vote du Sénat, ça s'est soldé par 32 voix contre 25 en faveur de l'abolition. 32 voix pour contre 25 en faveur de l'abolition. C'est selon le directeur d'Amnesty International USA, Larry Cox, le Parlement de l'Illinois a montré avec courage la bonne direction en prenant cette mesure tardive. Il a rappelé que 20 personnes avaient été disculpées et libérées du couloir de la mort depuis 30 ans. En 2003, à l'issue de 3 ans de moratoire sur les exécutions, le gouvernement républicain George Ryan avait commué toutes les peines de mort après la découverte d'une série d'erreurs judiciaires. Puis cet état-là, il n'a exécuté aucun condamné depuis 1999. Puis, tu sais, il y en a souvent qui disent « Ah, la peine de mort, ça coûte moins cher », mais dans cet article-là, ils disent de même source, la peine de mort a coûté 100 millions de dollars à l'Illinois depuis 2003. Fait que...
Ouch. Ouais, mais ramener la vie au coût financier, c'est quasiment...
Non, c'est juste l'article.
C'est presque d'autant bon goût que les pubs de BMO qui disent que ça coûte 180 000 faire un bébé.
C'est un des arguments carrément ridicules à la droite extrême, là. Puis aussi des élus de plusieurs États américains qui s'interrogent régulièrement sur la possibilité d'abolir la peine de mort, ce qui est encore en vigueur dans 35, 14 sur 50, en raison de son coût exponentiel par rapport à la perpétuité. Puis en 2009, le gouverneur du Nouveau-Mexique avait signé la loi supprimant la peine capitale dans son état. Puis 3 ans avant, c'était New Jersey. Puis les États-Unis ont exécuté 46 personnes en 2010, dont une femme, qui ont 98 en 1999. De toute façon, ça permet de passer
les États. Baisse.
Ouais. Puis là, une autre bonne nouvelle, ça vient de du quotidien français rue 89. C'est pendant c'est un qu'il frittait chez des oculos anglais qui a décidé de virer du bord du monde qui a espionné pendant cet temps.
Il était contaminé.
Ça a l'air à ça. L'officier.
Il était aussi obligé de déménager puis de se pousser à
l'étranger. Ouais, mais là, il est rendu à l'étranger.
En clandestinité.
Tu m'étonnes. Ouais.
Surprise, surprise. C'est l'officier de police Mark Kennedy qui a espionné les activistes verts en Angleterre. Aujourd'hui, il a changé de camp. Ses aveux ont fait capoter le procès de 6 militants accusés d'avoir voulu occuper une chandelle à charbon. Ils n'ont même pas occupé, ils ont juste voulu le faire, puis il y avait un procès. Bref.
Bande de vouloir criminaliser la vie.
Ce policier-là était doté de faux papiers sous son identité d'emprunt. Ça affiche tous les fronts d'anarchistes verts et l'escalade d'un pylône électrique pour dénoncer les crimes climatiques. S'enchaîne aux grilles. S'enchaîne aux grilles d'une centrale nucléaire, bon, interceptée par un train, transportant du charbon, puis aussi militer que la gauche extrême allemande, là. L'extrême gauche allemande. Puis, dans le fond, il était vraiment comme. Pendant plusieurs années, il s'est pas fait découvrir. C'est quand, à un moment donné, qu'ils ont voulu justement faire l'occupation d'une grande centrale de charbon du Royaume-Uni, que ça a amené à l'arrestation plus d'une centaine de militants. Dans une école quelques heures avant le déclenchement de l'opération. C'était le plus vaste coup de filet jamais réalisé par la police britannique contre des manifestants pacifiques et l'un des plus coûteux estimé à plus de 360 000 euros. Je ne sais pas vraiment ce que ça fait en valeur canadienne. C'est au moins le double. Là.
C'est 1,3.
Ouais.
C'est moins que le double maintenant.
Ouais, c'est 1,3, je pense. Un truc du genre.
Puis il y a 26 personnes qui ont été mises en examen, puis le Maxtour n'en faisait pas partie. En octobre 2009, ses caméras de lutte tombent par hasard sur son passeport avec sa véritable identité. Découvre aussi que déjà Mark Kennedy travaillait pour Scotland Yard depuis presque 20 ans. L'agence de couverture passe aux aveux et assure avoir quitté la police. Puis, il expliquait dans le fond, je me déteste, j'ai tellement travaillé de gens, si je peux aider à faire quelque chose de bien pour une fois, j'aimerais pouvoir le faire. Puis dans le fond, il a dit qu'il pourrait même témoigner en faveur d'un, témoigner d'avanchistes en faveur de ceux qui espionnaient avant. Puis lui, son espionnage, dans le fond, aurait coûté ça 300 000 euros par an depuis 2003 au tribunal britannique, dans le fond. Fait que, puis tu lui assures que lui, il est pas le seul. Tu sais, je ne suis pas assez loin de là, c'est comme casser une mouche avec un marteau.
Okay. Ouais, je t'ai fouillé un peu plus cette nouvelle-là, notamment le Guardian de Londres, un dossier assez volumineux sur la question, parce que il y a lui, mais il y a aussi les antifascistes radicaux. Qui s'était fait prendre dans la même affaire
les
et tout.
Anglais
puis,
aussi.
Ouais, ben c'est ça, ben c'est un anglais, ça, là.
Ouais, c'est ça, les antifascistes, c'était pas un truc en plus que.
Ben, c'était les antifascistes trotskistes, genre, mais qui étaient violents.
Ouais,
puis,
mais.
Il y a eu de l'infiltration à fond la caisse dans le milieu. Puis, dans ce cas-là, entre autres, ça, pourquoi le procès a capoté, c'est parce que la couronne avait peur qu'il y ait trop de secrets policiers qui soient dévoilés dans la preuve. C'était pas tant qu'ils disaient, ah, mais. Tu sais, c'est correct ce que vous avez fait. Finalement, on n'aurait pas dû. C'est que, en fait, ils n'ont pas voulu aller plus loin dans le procès parce que tout d'un coup, ils se sont retrouvés dans une situation où on aurait été obligé de dire c'était quoi. Puis l'affaire aussi qui fait capoter les Britanniques actuellement, c'est qu'ils sont en plein milieu d'un budget d'austérité très important où on triple les frais de scolarité.
Oh, ouais, puis on a parlé justement plusieurs fois à l'émission là, avant fin 2010.
C'est là, ça, on revient avec 300 000 piastres. Puis, ouais, c'est ça, 300 000 piastres par année pour le gars, tu sais, pour sa couverture. Puis, on parle pas d'une, tu sais, souvent, on voit de l'infiltration au Canada, autour d'événements, d'actions, tout. Puis là, c'est de l'infiltration à court terme sur quelques mois, voire un an. Mais là, dans ces cas-là, on parle d'une politique. En fait, c'est une nouvelle unité de Scotland Yard qui remplace une unité qui a été dissoute suite à d'autres scandales. Et en fait, officiellement, le gars, il travaillait comment ils appellent ça? Il travaillait à la lutte contre le terrorisme domestique. Et là, le terrorisme domestique avait été identifié comme étant Earth First et compagnie. Et il dit qu'en 7 ans d'infiltration, oui, c'est des actions directes spectaculaires, oui, c'est des affaires vraiment pas évidentes, tu sais, qui font mal médiatiquement parlant et tout, mais jamais, jamais, jamais de cas de violence ou de. Tu sais, ou au pire, de la violence dans des manifestations, des trucs, mais du terrorisme en tant que tel, Jamais. Puis c'est entre autres ça qui le fait un peu capoter. Puis sur la fin aussi, ils disent, ah, ils ont découvert par hasard son passeport, mais c'est aussi parce que il avait switché d'un rôle d'infiltration à un rôle d'agent provocateur dans le cas de la centrale de charbon. Puis c'est suite, en fait, il se demandait qu'est-ce qui se passait avec ce gars-là, mais entre autres, il s'est fait arrêter. Puis il a demandé à pas avoir le même avocat que les autres, et il s'est retrouvé sans charge, alors qu'il y en avait 26 autres qui se retrouvaient avec des charges. Fait que ses camarades ont fait comme, bon, OK, on va aller vérifier deux, trois petites choses.
C'est
et
quoi ton
en vérifiant des choses, ils sont tombés par hasard sur son passeport. Fait qu'on imagine que... En fait, il devait pas être chez lui quand il vérifiait des choses. Donc, c'est ça, en gros. Mais si vous cherchez, là, avec... c'est quoi son nom? C'est
Mark Kennedy.
Mark Kennedy ou Mark Scott?
Mark Stone. Scott, c'était...
Stone.
Mark Stone, dans le fond, c'est le nom qu'il avait.
C'était son nom d'emprunt.
D'emprunt, puis son vrai nom, c'est Mark Kennedy.
En tout cas, mais c'est vraiment quelque chose à regarder, là. Puis, en tout cas... En ce moment, en Grande-Bretagne, il y a des grosses affaires, puis il y a beaucoup de flics qui se posent des questions sérieuses là-dessus. T'en as qui virent écolo. T'en as d'autres aussi que eux autres qui étaient là pour protéger la démocratie, puis qui se retrouvent à faire des affaires qu'ils trouvent pas très démocratiques. Fait que bon, ça leur donne des cas de conscience, des choses qu'on voit pas vraiment. Dans des États comme la Tunisie, par exemple, dont on va parler dans un instant. Excuse-moi, c'était-tu ta dernière?
Oui.
Oui? Bon. Ben, c'est ça, justement. On va parler de Tunisie, mais avant ça, on va aller écouter une pièce de mon Dieu Seigneur, j'ai perdu son nom, c'est con.
Ben, moi, tu m'as marqué El General.
El General, un rappeur tunisien.
اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحلام 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم بالمتراك تاكا تاك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخوا وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف فرطان حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف فلاح ليش تهرب في نسال ما تحاشبين زعما ترضى هالبنتك عارف في كلامي بك العين عارف مدام بو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك يحكي معاك من الصفرانس رانا عايشين كل كلاب اشترى الشعب عايشين الذل وذاقوا من كاس تعذير رئيس البلاد شعبك بلاد باش عبد مس بلا كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصعيد بلاد شعبك بلاد باش عبد مس بلا كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصعيد رئيس البلاد وطلي يحكي من غير خوف انا حكيت لك انا عارف اللي نهايتي كان الكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلاب ورطا وصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها حريه التعبير ريت منها كان الكلام سميتو تونس بالخضراء رئيس البلاد هاك تشوف اليوم البلاد ولا الصحراء مقسومه على زوز ظروف سرقات بالمكشوف بالغرام الكل بلاد من غير ما نسمي انت تعرف شكون مهالعباد برشا فلوس كانت ماشيه مشاريع وانجازات مدارس ومي صحات بنعاج وتعديلات لكن ولاد الكلاب فلوس الشعب عباو القروش سرقوا نهبوا فكوا خطفوا في الكراسي ما سيبوش نعرف لي برشا كلام في قلب الشعب ما يوصلش كان جا الوضع من غير ظلم راني اليوم ما نتكلمش رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد مس بلا كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصعيد رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد مس بلا كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط
اوكي صوت البلاد جنرال 2011 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس رئيس البلاد رئيس البلاد
رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد مس بلا كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصعيد رئيس البلاد شعبك بلاد برشا عباد مس بلا كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصباط
We'll be right back.
Oui, alors donc ça c'est une toune. En fait, ça s'appelle Rice Le Bled, c'est le chef du pays, donc, qui a été fait par El General, qui est un des principaux rappeurs tunisiens. Pourquoi je le mettais? Parce que dans le contexte de toute la contestation sociale qu'il y a actuellement en Tunisie depuis maintenant 4 semaines, il y a le pouvoir s'est attaqué à des blogueurs et à des rappeurs et à des artistes, et le 6 janvier, une trentaine de policiers civils qui sont allés chez El General pour arrêter Hamada. Ben Hamada, c'est son vrai nom en fait, puis ils l'ont pris sans dire à sa famille où est-ce qu'il l'amenait, et quand ils ont demandé pourquoi il l'arrêtait, ils ont simplement répondu « Et c'est pourquoi ». Donc ça, c'était Hamdi Ben Amir, le frère du rappeur tunisien Hamadat Ben Amor, qui se fait connaître en fait sous le nom de El General.
On n'est pas loin du crime par la pensée.
Oui, oui, qui parlait. Et donc, ce rappeur-là, c'est un jeune homme de 22 ans qui a été arrêté à Sfax. Et en fait, pourquoi il est arrêté? C'est parce que ses morceaux sont devenus l'hymne de la jeunesse contestataire de Tunisie. Mais bon, il a été relibéré dimanche après 3 journées difficiles, dit son frère. Il est revenu chez eux sans incident. Et donc, la pièce qu'on vient d'entendre a été lancée en fin décembre, et c'est un titre qui s'appelle là, Le Chef du Pays, où il interpelle directement le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, donc Ben Ali, sur la misère sociale du pays, la violence du régime et le chômage des jeunes. Et semble-t-il que la pièce, évidemment, je parle pas arabe, il semble que la pièce soit genre lettre protocolaire, très polie, très et tout. Tu sais, il l'insulte pas, là, il l'envoie pas chier, mais il dit ce qu'il en est. Il essaie d'entrer dans un dialogue et on a vu où le dialogue l'a amené.
Ben, il l'a amené à la maison du premier ministre.
C'est ça, il est à la maison du président. Et donc, c'est ça. Ce qui se passe en Tunisie, c'est très grave. Jeudi dernier, il y avait un premier rassemblement de solidarité avec la Tunisie à Québec. Je suis allé, puis j'ai ramené une entrevue avec Mohamed Ali Saïdan.
Liberté en Tunisie, pas de président sa vie.
Le 16 janvier 2011, aujourd'hui, c'est journée de solidarité internationale avec Sidi Bouzid en Tunisie. On est devant le siège de Radio-Canada à Québec. Une manifestation, on s'approchait pour essayer de parler à nos organisateurs.
Liberté en Tunisie, pas de président sa vie. Liberté en Tunisie, pas de
OK. Donc, vous êtes monsieur?
Mohamed Ali Saïdan.
Bonjour.
Oui.
Donc, aujourd'hui, là, on est devant Radio-Canada pour un visage, une manifestation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'il y en a?
Oui, on a choisi cet endroit d'abord pour sensibiliser les médias. On a pensé à cet endroit justement pour ça. Et en plus, parce qu'il est bien visible à Québec. Donc, on est ici des Tunisiens, des Québécois, sont joints à nous pour exprimer notre solidarité avec le peuple tunisien. Actuellement, en Tunisie, ça fait 3 semaines déjà, il y a un mouvement populaire de protestation suite à un geste de désespéré d'un jeune qui s'est immolé par le feu. Cet acte très grave et très, inqualifiable du point de vue humain, a fait qu'on se mobilise, que d'abord ça s'est répercuté tout de suite dès que l'acte s'est fait par un mouvement de protestation dans la ville même où ça s'est produit, et ça a fait tache d'huile dans les villes avoisinantes. Ça fait 3 semaines que ça dure. Aujourd'hui, ça touche toute la Tunisie. Ça,
est-ce que vous pouvez nous parler juste un peu du mouvement? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on en entend, mais vraiment pas parler.
Oui, le mouvement, c'est des manifestations que les gens sortent. Ils ont des slogans sociaux. Parce que la plupart, le problème qui est à l'origine, c'est le problème du chômage des diplômés. On a des diplômés en Tunisie, des diplômés universitaires qui sont au chômage. Le monsieur, le jeune là, qui s'est immolé par le feu, en est un. Et ce geste de désespoir a déclenché, a été l'élément déclencheur d'un mouvement vaste. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y avait un ras-le-bol, il y avait un sentiment caché en Tunisie qui s'est explosé. Là, c'est ça ce qui a fait. C'est comme la goutte qui a débordé le vase. Là. C'est ça ce qui a fait que le mouvement se répande aussi vite. Donc c'est comme les gens attendaient un signal pour sortir tous ensemble avec le même message, on en a marre de ce qui se passe comme corruption dans le pays, des injustices sociales, de la répartition inégale des richesses entre les régions. Il y a des régions qui sont plus nanties que d'autres. L'investissement, l'État, c'est démobilisé, il n'investit plus. Donc, en suivant les politiques du FMI, de la Banque mondiale, il a laissé la place aux investisseurs privés. Ces gens-là ne sont pas intéressés d'aller dans les régions où ça manque d'infrastructures. Ce qui a fait que c'est un pays dont les deux tiers sont à l'abandon. Il y a juste une partie de la côte de la Tunisie qui est un paradis. L'autre côté, c'est un enfer.
Quand on parle de la Tunisie, en fait, on ne pense pas souvent à des mouvements sociaux. En fait, ça a l'air d'être un pays plutôt calme du Maghreb. Quelle situation qui justifie que tout d'un coup, là, la couverture saute? Est-ce que c'était prévisible?
Ben, c'était prévisible pour les gens qui connaissent la Tunisie. Ça fait longtemps qu'on le dit, que ça ne peut pas aller plus loin que ça. C'est un pays où le régime empêche les gens de s'exprimer librement. Donc, qu'est-ce que ça peut générer? Ça peut générer rien que le régime coupé du peuple, coupé de ceci.
C'est un régime de quel type?
C'est un régime de type spécial. C'est le seul régime que l'apparence donne. Tout est là pour dire que c'est un régime démocratique. Les lois, la législation, la forme. Il y a un parlement non élu. Mais on fait un simulacre d'élection pour dire que des gens sont élus. Il y a un gouvernement non élu aussi, par la même occasion. Des élections présidentielles que à chaque élection, le président est réélu avec des pourcentages du style 90 et plus pour cent.
Très démocratique.
Très démocratique. Du style des années de la guerre froide des pays de l'Est. Là. C'est ça ce qu'on peut, si on veut comparer. Donc, c'est un régime qui donne l'apparence d'être un régime ouvert et tout ça, alors que de l'intérieur, si vous allez comme journaliste étranger en Tunisie, vous allez être fliqué. Il y a des policiers qui vont vous poursuivre partout où vous allez. Afin de voir qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez interviewer, est-ce que vous allez voir des gens qui défendent les droits de l'homme, n'importe quoi.
Et d'après vous, est-ce que le mouvement actuel a des perspectives?
J'espère. La chose la plus importante d'abord dans le mouvement, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ça a brisé une barrière psychologique, celle de la peur. Avant ça, on n'osait pas. Les gens avaient peur. Si ça se faisait, c'était isolé et puis ça se terminait par la répression et puis c'était étouffé au démarrage. Aujourd'hui, moi, je suis militant d'un parti politique. On n'a même pas le droit de se réunir dans des salles publiques. On nous empêche même pour se réunir, pour faire un congrès, pour n'importe quoi. On nous empêche d'avoir droit à les hôtels. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire « Ah, la salle est prise ». Ou des prétextes de ce genre-là.
Il n'y a pas d'activité politique possible.
Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'espace de liberté où on peut s'exprimer. On ne peut pas parler aux gens, on ne peut pas s'adresser aux citoyens directement. On a une télévision publique qui est manipulée, qui est sous la solde du régime. Il y a juste le pouvoir en place. C'est une télévision gouvernementale qui dit, répète juste le discours. Au même moment que se passaient des choses à Sidi Bouzid, la télévision tunisienne passait des variétés, des émissions de variétés. Il n'a même pas soufflé un mot de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Les informations ou la situation tunisienne, on entend parler par les chaînes internationales, comme Al Jazeera. Al Jazeera, elle est attaquée aujourd'hui par le régime. Il l'accuse de fomenter les troubles en Tunisie pour la simple raison qu'elle a diffusé ce qui se passe en Tunisie. Imaginez la situation. Donc c'est tout à l'envers. Si on entend le discours officiel tunisien, on dirait qu'on vit dans un paradis où les jeunes sont obligés de s'immoler par le feu pour se faire entendre.
Et c'est quoi l'objectif des manifestations un peu partout, comme à Québec aujourd'hui?
C'est juste un geste de solidarité pour dire aux citoyens, et c'est important aussi, parce que comme je le disais tout à l'heure, C'est la première fois où des Tunisiens se réunissent ensemble à Québec. Je parle de la ville de Québec, ça s'est fait à Montréal, où on voit aussi, ça paraît un petit nombre, mais pour la Tunisie, pour les Tunisiens, c'est un grand moment de liberté qu'on exprime là, de solidarité, parce que venir ici, au risque de se faire... pour certains, la crainte d'être photographié, filmé, et puis la crainte des représailles qu'on peut subir en Tunisie est déjà un grand geste de courage de la part des citoyens tunisiens qui viennent ici, qui se montrent le visage découvert.
Et merci beaucoup.
Bienvenue.
Liberté en Tunisie, pas de président sa vie. Liberté en Tunisie, pas de président sa vie. Liberté en Tunisie.
Donc voilà, il faut savoir que cet entretien-là a été enregistré jeudi dernier, donc ça date un petit peu. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Le blackout médiatique commence à être un petit peu moins pire. Là, on en entend parler de plus en plus dans les médias. Par contre, on parle beaucoup d'émeutes sociales, d'émeutes ci, d'émeutes ça. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Aujourd'hui, l'ONU a appelé à des enquêtes indépendantes sur les violences. Et en fait, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Navi Pillay, qui a appelé aujourd'hui mercredi le gouvernement tunisien à mener des enquêtes indépendantes crédibles à la suite des informations sur un usage excessif de la force par les services de sécurité. Alors, dans son communiqué, la commissaire dit « Des informations suggèrent que la majorité des manifestations ont été pacifiques et que les forces de sécurité ont réagi avec une force excessive contraire aux standards internationaux. » Donc, explique Mme Pillay dans son communiqué. « Il est impératif que le gouvernement lance une enquête transparente, crédible et indépendante sur les violences et les meurtres. »
C'est quoi les standards internationaux?
Ben, je sais pas c'est quoi, mais là, il y a la ministre des Affaires étrangères française qui disait « Ah, c'est pas une dictature, mais il y a peut-être des problèmes dans ce régime-là qui est un peu autoritaire. Nous suggérons de lui envoyer les forces de sécurité françaises qui vont lui montrer comment qu'on fait ça. »
Ben oui, demande-leur comment ça marche, l'affaire Bettencourt. Comment est-ce qu'on se fait acheter des élections puis payer des millions de dollars complètement illégalement?
Et donc, la contestation sociale secoue la Tunisie depuis 4 semaines maintenant. Et selon les autorités, il y a déjà 21 morts. Mais selon les sources syndicales, plus de 50. Là, ça, c'est en date d'aujourd'hui. Et donc, il va y avoir d'autres manifestations. Il y en a une la fin de semaine dernière que j'ai malheureusement ratée. Sauf que samedi prochain, il y a le 15 janvier 2011, il y a une journée internationale contre les massacres en Tunisie en solidarité avec la lutte du peuple tunisien. Et donc, journée internationale, c'est le collectif canadien de solidarité avec les luttes sociales en Tunisie. Et au Québec, c'est le collectif de solidarité Québec-Tunisie, je sais pas trop, quelque chose comme ça. Et donc, il y a un rassemblement qui est ouvert à tout le monde, qui est évidemment pas ouvert seulement aux Tunisiens. C'est à Québec, devant le centre communautaire Lucien Borne, au chemin Sainte-Foy. Donc, tout d'abord, un rassemblement, c'est à 14h. 14h, c'est bien ça, juste un instant, je vais...
Le centre Lucien Borne étant coin de Salaberry.
13h30. 13h30 au centre Lucien Borne, sans chemin Sainte-Foy, coin de Salaberry et chemin Sainte-Foy. Et il va y avoir un rassemblement suivi d'une manifestation qui va se rendre jusqu'à Radio-Canada, puis après ça, qui va arrêter à la place Diouville. Alors, évidemment, on invite tout le monde à participer à ce rassemblement-là. Là. Quand c'est rendu qu'un État, un pouvoir tire à balles réelles sur sa population, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on a des camarades qui ont des amis de la famille là-bas qui nous postent des photos et on voit très clairement que maintenant l'armée est dans les rues. C'est plus juste la police, c'est les véhicules militaires et on s'entend que historiquement, au Maghreb comme ailleurs, quand l'armée commence à investir les villes, c'est pas bon signe.
Non.
Donc on s'en va en musique et on revient avec les plugs et la conclusion.
Oui monsieur, on va finir ça avec Yabasta.
Je reviendrai vers mon modèle. Donc, très brièvement, juste un rappel des plugs de cette semaine. Vendredi 14 janvier, 21h, Reggae Célébration 2011 au bar coopératif L'Agité. C'est 5$ au profit de Sequoia. C'est animé par la gang de Dread Al Control. Il y a plusieurs artistes invités. Et, je ne recommencerai pas à nommer leur nom pour pas faire rire de moi par Farouko. Sinon, samedi à 13h30, ça vous laisse le temps de vous remettre de votre soirée. Devant le centre Lucien Borne, un rassemblement de solidarité avec la lutte du peuple palestinien manifestant contre les massacres en Tunisie. C'est organisé par le collectif de solidarité avec les luttes sociales Québec-Tunisie. Ça va être suivi d'une marche. On vous invite fortement à y aller. Et mardi prochain, le 18 janvier à 19h, toujours au Café-Bar L'Agité, 251 rue Dorchester. Non, nous ne sommes pas commandités par L'Agité. Il y a le lancement du nouveau site de Presto à gauche et il y a surtout notre ami Stéphane Robitaille qui va faire une petite prestation. Donc, c'était Nicolas en compagnie de
Jani
et Farouko.
Vous écoutiez Voix de Fée sur les ondes de Sequoia 88.3. Passez une agréable semaine.
Ce soir encore, au Montagnard, passez le temps, on rentre en tard.